Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Les 22 et 23 septembre prochains, le pape François fera sa première visite en France, plus précisément à Marseille, un événement unique et particulièrement attendu par tous les chrétiens de France. On en décrypte ce matin les enjeux dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mgr Xavier Darod, ancien conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Bonjour Mgr.
Bonjour Timothée, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer le contexte de ce voyage à Marseille? On précise, c'est pas un voyage apostolique, c'est pas une visite d'État, il vient dans un cadre très particulier.
Il vient effectivement dans un cadre assez unique, qu'évidemment tout le monde a voulu faire rentrer dans des cadres beaucoup plus classiques, parce que c'est plus rassurant. En fait, il vient à la suite des rencontres qui ont déjà eu lieu à Bari et à Florence, Bari en 2018, Florence en 2020, et qui était cette réflexion autour de Méditerranée en frontière di pace, c'est-à-dire la Méditerranée, un lieu de frontière de la paix. Et la troisième initiative se retrouve donc à Marseille, fin septembre. Et elle permettra, dans ces rencontres méditerranéennes, comme est le titre en français, de pouvoir justement parler de ce lieu historique, mais qui est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de défi, notamment sur l'écologie ou sur l'immigration. Mmh. Alors évidemment, on a tous voulu le faire rentrer dans un cadre bien précis, et le pape l'a dit lors de son retour justement des JMJ dans l'avion, il l'a dit, écoutez, je ne me rends pas en France, je me rends à Marseille, justement pour ces rencontres méditerranéennes. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait significatif et unique.
Justement, vous l'avez dit, le pape a dit « je ne me rends pas en France, mais à Marseille ». Ça a piqué certains.
Alors, ça les a piqués, oui, ça a piqué beaucoup de monde, évidemment, parce qu'on ne peut pas exclure Marseille de la France pour un Français. C'est ça. Et donc c'est effectivement aussi une partie de la position des autorités françaises qui ont toujours dit si le pape vient en France, il doit passer par Paris.
Ah oui, parce c'est que automatique. Paris,
ça a toujours été la réflexion qui s'est fait jour. Et justement, le cardinal Aveline, dans les discussions qui ont pu avoir lieu, que ce soit à Rome, que ce soit auprès de la conférence des évêques de France, etc., a toujours plaidé pour le fait que c'était un déplacement méditerranéen, donc autour de cette question-là, à Marseille. Cela n'exclut pas le fait que de fait Marseille soit en France, et on va retrouver du fait un certain nombre de protocoles républicains qui seront tout à fait républicains internationaux qui seront tout à fait respectés. L'ambassadeur de France près le Saint-Siège saluera le pape à son départ de l'avion de Fiumicino. Le pape sera accueilli par le président Macron à l'aéroport. Le premier ministre très certainement saluera le pape à son départ. Ce sont tout ça des éléments qui signifient bien que le pape de fait se rend en France, mais avec une perspective qui est tout à fait autre et qui est celle d'une mission pastorale qui ne le limite pas justement à une posture politique ou une posture diplomatique, mais qui lui donne pleinement son rôle de pasteur de l'Église universelle.
Pourquoi spécifiquement se rendre à Marseille pour ces rencontres méditerranéennes? Il n'aurait pas pu choisir un événement de plus grande envergure?
D'abord parce qu'il était déjà allé à Bari pour la première rencontre, et puis je crois que c'est une thématique, on le voit bien dans son pontificat, qui a une place tout à fait particulière. Il a énormément insisté sur ce drame des migrants, les difficultés qu'ils doivent affronter. Il y a de fait une importance qui est accordée par le Saint-Père à tout ce bassin méditerranéen, dont il a bien conscience qu'il y a là à la fois un creuset historique, d'échanges, de relations, mais aussi un enjeu pour notre société moderne, parce que il y a là tout un enjeu écologique, un enjeu de pouvoir, un enjeu d'immigration, un enjeu économique. Et donc, il estime que l'Église, et en particulier lui comme pape, a quelque chose à dire. Et c'est dans ce contexte tout à fait international, tout à fait interreligieux, qui est voulu par les organisateurs de ces rencontres méditerranéennes, de permettre ce dialogue. Et ça, c'est une des particularités, je dirais, de Marseille. Vous me demandiez pourquoi Marseille. Eh bien, je crois que le cardinal Aveline a eu un rôle tout à fait déterminant à permettre ce dialogue entre les différentes confessions, les différentes communautés religieuses qui se trouvent présentes à Marseille, que ce soit la communauté juive, que ce soit la communauté musulmane. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement présent dans les rencontres précédentes, mais qui, à Marseille, de fait, s'impose à cause de la diversité. Marseille est un port, c'est l'ouverture vers le monde. Et donc, ce qui se passera à Marseille, de fait, aura une résonance mondiale.
L'objectif, justement, de ces rencontres méditerranéennes, c'est de redécouvrir la vocation de la Méditerranée. Vous nous l'avez un petit peu dit, mais quels sont véritablement les enjeux de cette mer ?
Eh bien, d'abord, du point de vue de la transmission de la foi et de l'histoire, je crois que c'est important pour nous, chrétiens, de repartir aussi de cette identité profonde. C'est autour du bassin méditerranéen que cette foi au Christ est née et surtout s'est diffusée. On connaît tous ces cartes des voyages de saint Paul, qu'on essayait de retenir dans le bon ordre, on se trompait à chaque fois, mais vous voyez bien qu'il y a autour de cette Méditerranée, tout un périple. Et puis, ce sont évidemment pour les Provençaux, des Sainte-Marie de la Mer, c'est effectivement cette venue de Lazare et de Marie-Madeleine. Donc il y a toute cette tradition, si vous voulez, de lien entre Marseille et la Méditerranée. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'un point de vue historique. Mais c'est aussi, d'un point de vue historique, un lieu de conflit, un lieu de tension, que ce soit avec la bataille de Lépante, que ce soit le conflit récurrent de fait avec des pays d'Afrique du Nord, et le conflit qui parfois a pu régner entre le Dey d'Alger et la France ou d'autres pays. Je cite le Dey d'Alger, mais ça pourrait être autre chose. Donc il y a là un enjeu de dialogue des civilisations. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. L'un des objectifs de cette visite du Saint-Père est de permettre justement ce dialogue des civilisations en rappelant que la foi, la dimension spirituelle a profondément quelque chose à dire à notre modernité, justement, qui est en déshérence et en désespérance. Et là, il est important que nous puissions montrer, justement dans un contexte de laïcité à la française, que la foi n'est pas un lieu de conflit entre religions. Au contraire, on voit que justement, il va y avoir des visites, des mosquées qui vont être organisées, il va y avoir une ouverture aussi des synagogues et des moments de prière ensemble. Il y a toute cette démarche, si vous voulez, des églises aussi pour s'ouvrir et se rencontrer à travers les différents rites, à travers les différentes confessions chrétiennes qui seront là. Et donc, il est important de montrer au monde que les croyants ont quelque chose à apporter et que la foi n'est pas d'abord un lieu de conflit, mais c'est vraiment un lieu de paix parce qu'il y a cette espérance. Et donc, c'est pour cela que ces rencontres méditerranéennes, au départ, s'appelaient les frontières de la paix.
L'objectif, c'est simplement de discuter, d'échanger, ou vraiment de trouver des solutions concrètes. Et est-ce que les deux précédentes éditions ont donné des choses concrètes ?
Ben, elles ont donné la fécondité de ces rencontres. C'est justement le fait que il y ait ce dialogue qui soit permanent. Et donc, il va y avoir cette ouverture vers des lieux qui sont plutôt inhabituels pour nous. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment le pape François est dans cette ouverture et montrer que l'Église a vraiment quelque chose à dire et à annoncer à des franges de la société qui, par ailleurs, peuvent se sentir beaucoup plus lointaines et qui semblent hermétiques à ce discours. Au contraire, là, il va y avoir à la fois la dimension culturelle, la dimension artistique, la dimension caritative, la dimension religieuse, spirituelle. Et donc là, il y a aussi cette dimension politique, puisqu'il va y avoir des interventions de personnalités. Le président Macron sera là, même s'il n'intervient pas directement. Je crois que ça la montre bien, cette interaction. Voyez-vous, la religion vient du latin religio, c'est-à-dire relié entre eux. Eh bien, c'est profondément l'expérience que nous allons pouvoir faire là. Ce n'est pas d'abord un corpus de doctrine, ce n'est pas une morale, c'est d'abord le fait de mettre les uns et les autres en relation entre eux, de mettre les hommes en relation entre eux et de mettre les hommes en relation avec Dieu.
Donc, mise en relation, on échange, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui s'en suivent ?
Oui, évidemment. La charité, par exemple, il va y avoir ce grand dîner qui est ouvert justement à des personnes en précarité. Mmh. Il y a toutes ces initiatives de dialogue interculturel. On peut pas rester insensible à l'expérience qui va être faite. Mmh. Néanmoins, c'est un défi. Et donc, il est évident que les choses ne sont pas si évidentes. Ce n'est pas pour rien. Donc le cardinal Aveline appelle justement à une neuvaine de préparation de cette rencontre. Il y aura donc samedi prochain une grand-messe justement pour pouvoir préparer les cœurs et les âmes à cette rencontre. Et donc, c'est parce que c'est de l'ordre de la conversion. Vous me demandiez qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas de programme qui est établi à l'avance. En revanche, on crée les conditions pour pouvoir agir et pour pouvoir échanger entre les uns et les autres.
Les fidèles de toute la France vont affluer vers Marseille les 22 et 23 septembre prochains. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le pape qui vient dans son pays ? Ou dans sa ville, pour Marseille, en l'occurrence ?
Ah, je crois que c'est... Je crois qu'il y a un attachement particulier au successeur de Pierre. Très clairement, l'homme en blanc porte quelque chose qui profondément le dépasse. Il est le vicaire du Christ. Mmh. Alors on ne le voit pas nécessairement comme cela si on n'est pas croyant. Mais il a une parole et une perspective qui, de fait, dépasse nos catégories et lui donne du sens. J'en veux pour preuve la multiplicité en fait des échanges diplomatiques aussi qui existent entre le Saint-Siège et les pays. Si tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement se rendent à Rome, ce n'est pas simplement pour admirer les dorures des palais apostoliques ou la beauté des fresques peintes par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. C'est profondément parce qu'il y a un message qui est transmis et qui, de fait, a un sens extrêmement profond. C'est pas rien de représenter aussi plus d'un milliard de personnes dans le monde. Le rayonnement de l'Église, on a parfois du mal à le comprendre dans un contexte français qui est fait aussi de difficultés parce que d'une crise numérique en termes aussi de pratiques. Voilà, et le contexte de la laïcité à la française aussi rend les choses parfois difficiles à comprendre. Mais lorsque je viens voir le pape, lorsque je me retrouve auprès de lui, c'est auprès, non pas de mon patron, mais c'est auprès de mon père, c'est auprès de celui qui est pasteur de l'Église universelle et qui a reçu ce charisme-là. Et donc, comme on dit en italien, sempre col papa, toujours avec le pape.
Quelle relation le pape François, le pape actuel, entretient avec notre pays, la France, justement ?
Alors, on a beaucoup discuté. Parce que, justement, la France estimait que, fille aînée de l'Église, elle méritait un peu
une
de considération.
Plus particulière.
Un peu de considération, oui. Etc. Et puis, qui est à la mesure aussi de son engagement. La France a toujours collaboré avec le Saint-Siège, je crois, de façon... Assez remarquable. Alors, il y a eu des périodes historiques où les relations étaient très compliquées, tendues, etc. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas la situation actuelle. En revanche, je crois que du point de vue du pape, l'urgence n'était pas dans la représentation auprès d'un pays. L'urgence n'était pas dans une activité politique ou diplomatique. L'urgence, elle est dans le fait d'être présent à des personnes, à des situations, d'être dans une attention, si vous voulez, à ces grands événements qui parcourent notre vie internationale et notre vie religieuse. Et donc, je trouve là tout à fait significatif qu'il soit attentif, justement, à aller célébrer cette messe au Vélodrome, dans un lieu, justement, très ouvert, très, très, très universel, un lieu de fête.
Populaire.
Oui, un lieu populaire. Plus souvent de fête, on l'espère, que de déception. Mais qu'il soit justement là où une parole puisse se faire entendre. Certains l'ont critiqué en disant « Mais comment est-ce qu'on peut aller célébrer une messe dans un vélodrome ?» Moi, je rappelle en permanence que Saint-Pierre a donné sa vie dans le cirque de Néron. Et que le témoignage de la foi, il se rend partout. Y compris dans des lieux peut-être les plus inattendus, les plus populaires. Mais c'est justement parce qu'il faut nous retrouver cette fraîcheur, cette évidence de la foi dans des lieux populaires. Ne cantonnons pas l'Église dans nos sacristies.
Monseigneur Darod, on va faire une première pause musicale dans cette émission. On revient dans quelques instants.
L'avion, il embrasse la terre, à genoux sur le sol comme on fait sa prière. Et même les officiels ne savent plus quoi faire avec leur vieux discours, leur tenue militaire. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu, que la terre est rouge quand on le voit si blanc, comme un bateau qui bouge sur la marée des gens. Et les mots qu'il prononce dans les haut-parleurs sont des coups de semonce qui leur vont droit au cœur. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grands des écoles chantent pour l'homme en blanc. Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent. Plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Son parcours est rempli par des millions de gens. Dieu, que la place est noire quand on le voit si blanc. Comme une vague d'espoir où s'accrochent les gens.
Seigneur Jésus, ten piedad de nosotros. Seigneur Jésus, ten piedad con pasión. Seigneur
qu'il annonce aux peuples à genoux. C'est comme une réponse qui les remet debout. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Il poursuit son voyage infatigablement. Dieu que le ciel est bleu quand on le voit si blanc. Comme une voile qui bouge sur la marée des gens.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Monseigneur Xavier Darode, ancien conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Monseigneur, on le dit pour notre auditeur qui vient de nous rejoindre, les 22 et 23 septembre prochains, le pape François vient à Marseille pour les rencontres méditerranéennes. C'est un événement assez inédit, particulièrement attendu. C'est pas tous les jours qu'on reçoit le Saint-Père dans son pays. Vous, en 2008, vous avez contribué à ce que Benoît XVI vienne en France.
Alors, j'ai contribué, vous savez, c'est un bien grand mot. Petite contribution, c'est-à-dire... Mais les petites mains sont parfois importantes. Mais de fait, vous imaginez bien que ce sont des voyages compliqués qui s'organisent très, très en amont et qui font l'objet d'intenses négociations, de propositions, de vérifications, avec des missions exploratoires, notamment du protocole, de la sécurité. Derrière ces déplacements, c'est quand même une grosse machine qui se met en place et donc un gros travail de préparation sur les sujets qui vont être abordés, les thématiques, les lieux, les personnes rencontrées. Mmh. Et donc, effectivement, la contribution de chacun est infime, mais elle est néanmoins nécessaire pour la réussite d'un voyage. Donc, la visite de Benoît XVI, en l'occurrence en 2008, avait été très, très symptomatique pour moi, d'abord très emblématique, c'est celle que j'ai, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et puis on l'a vu démarrer d'abord avec timidité, parce que comme la figure même de Benoît XVI était un peu en retrait, air professeur, comme on le surnommait à Rome à l'époque, n'avait pas peut-être cette dimension charismatique ou voilà. Et puis il y a eu ce discours au Bernardin, il y a eu le discours à l'Institut de France, il y a eu ces grandes rencontres d'intellectuels, de politiques, surtout de rencontres avec la foule. Et là, tout d'un coup, quand on était dans ces voitures à suivre l'enthousiasme de la foule parisienne, c'était de fait saisissant. Et après, l'arrivée à Lourdes auprès des malades était tout à fait bouleversante. Donc, ces différentes étapes d'un voyage, ce dosage, si vous voulez, entre des interventions politiques, des interventions plus intellectuelles, plus... voilà, ça dépend des propositions qui sont faites, de la volonté même du Saint-Père, de ce qui est possible de faire, etc. Et c'est un savant dosage, où beaucoup veulent mettre la main, et chacun essaye d'attirer le pape chez lui.
C'est sûr. Vous disiez, il y a beaucoup d'échanges, de vérifications. Justement, qu'est-ce qu'il faut vérifier en particulier et les échanges se font entre qui? Vous disiez tout le monde veut accueillir le pape chez lui, j'imagine qu'on ne met pas tout le monde autour de la table et bon, qui veut quoi et qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais c'est beaucoup plus feutré, d'une part, mais il est évident que bien, la conférence des évêques de France y participe, notamment à travers la présidence ou le bureau de la CEF, les autorités françaises à travers que ce soit la présidence de la République, que ce soit les services du Premier ministre ou le Premier ministre lui-même. Le protocole et évidemment le Quai d'Orsay, notre ambassade de France près Saint-Siège interviennent, mais du côté du Saint-Siège, c'est évidemment le protocole, la secrétaire d'État, c'est le pape lui-même. Donc là, on a toute cette alchimie. Et je dois dire que je suis très admiratif de ce qu'a pu faire le cardinal Avelyn. Les demandes de voyage sont adressées au Saint-Père et sont extrêmement nombreuses. Le fait que le pape décide de venir à Marseille est tout à fait significatif. Et le fait que le cardinal Avelyn ait réussi à garder ce format-là de voyage, qui soit éminemment un lieu d'échange, un lieu de rencontre avec sur les échanges, les questions du dialogue interreligieux, sur la question de l'écologie, sur la question des migrants, sur la question de la pauvreté, sur la question de la culture aussi, garder un voyage dans ces limites-là, c'est une vraie prouesse de sa part.
Est-ce que le pape a son mot à dire ou on lui colle le programme et il suit le protocole?
Croyez-vous que le pape François
soit de ce genre-là?
Je ne le connais pas assez pour pouvoir répondre. Et puis, pour ma part, j'étais du temps du pontificat de Benoît XVI. Mais j'imagine, connaissant un peu les arcanes romaines, qu'il n'est pas du genre à se laisser faire. Et pas plus le cardinal Avelyn non plus.
Oui, aussi. Décomposant ensemble le programme du pape François en France, il arrivera donc le vendredi, le 22 septembre, en début d'après-midi à Marseille. Il sera accueilli par le président Emmanuel Macron à l'aéroport de Marignane. La présence d'un pape français en France est un honneur pour le pays. C'était indispensable que le président Macron soit là pour accueillir le pape, même si c'est pas à Paris.
C'est protocolaire.
C'est protocolaire là aussi.
Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si c'est pas une visite en France, quand même, les autorités françaises sont attentives, et le Saint-Siège aussi, à faire en sorte que le protocole néanmoins puisse être respecté. Cela montre l'importance aussi de ce que représente le Saint-Père. Et ça, je crois que c'est important pour nous de le comprendre. Il vient avec un message de paix. Il vient avec un message d'ouverture, alors que nous ne comprenons pas nécessairement, mais il faut justement que nous entendions que ce message-là est reçu par les autorités au plus haut niveau, et qu'elles sont en attente de cela. Et donc, au-delà du protocole, je crois qu'il y a lieu de comprendre justement qu'il y a une attention. Le pape est actuellement en Mongolie, dans ce pays coincé entre la Russie et la Chine. Il a fait un salut justement tout à fait significatif aux autorités chinoises et aux chrétiens chinois, leur demandant d'être de bons chrétiens, de bons citoyens. Je pense que, voyez-vous, on ne peut être qu'attentif à l'expérience d'un homme qui est profondément habité par la prière, qui est profondément habité par sa foi, et qui vient se situer dans ses rapports internationaux, dans sa mission pastorale, justement de façon originale, parce qu'il est pape. C'est sa fonction et c'est son charisme propre qui font qu'il est accueilli ainsi.
S'ensuivra une prière interreligieuse à Notre-Dame de la Garde. Il y aura aussi un moment de recueillement avec les chefs religieux près du mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer sur le parvis de la basilique où il prendra la parole. Il est là aussi l'enjeu de la visite, c'est trouver des solutions. Quelle réponse peut apporter l'Église face à la crise migratoire que connaît la Méditerranée depuis de nombreuses années ?
C'est rappeler à notre conscience.
Ah oui.
C'est rappeler à notre conscience profondément le drame qui se noue. Et l'injustice face à laquelle nous devons faire face. Mmh. Et cela dépend aussi de notre volonté, de notre résolution.
Le lendemain, le pape François rencontrera l'archevêché des personnes en situation de précarité économique avant de se rendre au palais de Faro à la clôture de l'assemblée des évêques et surtout de la session des jeunes. Les jeunes qui sont très présents dans ce que veut véhiculer le pape François, on l'a vu avec les JMJ récemment.
Oui. Et pour une raison tout à fait évidente, parce que c'est eux qui vont nous permettre...
Qui sont le présent et l'avenir de l'Église.
Oui, qui sont le présent et l'avenir, et puis ce sont eux qui ont ce dynamisme, qui vont mettre la pagaille, comme nous a dit le pape. Et alors le but n'est pas de mettre la pagaille dans l'Église ou dans le monde, mais de lui redonner son âme, de lui redonner son souffle. Et nous avons besoin, justement, de gens qui n'hésitent pas à aller au-delà des frontières. Et c'est inconfortable d'être entre deux lieux, entre deux frontières. Mais nous avons besoin de ces gens qui soient capables de faire le lien entre l'une et l'autre rive. Et les jeunes, justement, ont cette évidence.
Le point d'orgue, Monseigneur Darod, c'est la messe au stade Vélodrome. Alors on précise pour les non-amateurs de football, le stade Vélodrome, c'est le stade de l'Olympique de Marseille, le club de la ville. Elle débutera à 16h15, une enceinte qui compte 67 000 places. Mettre à disposition un stade de foot, cela montre quand même l'intérêt de la ville de Marseille et de la France d'accueillir dans de bonnes conditions le pape. C'est quand même assez inédit, hein. Ça pose des questions.
Alors, je crois que le cardinal Wavelin était très content.
Oui, je pense aussi.
De réussir à obtenir ce lieu parce que c'était compliqué entre les compétitions sportives, la Coupe du Monde, de rugby ou je ne sais trop quoi. Mmh. Enfin bref, il y avait toute une conjonction qui faisait que la mise à disposition de ces lieux était pas évidente. Mais oui, ça montre la popularité, en fait, de notre démarche de foi. Profondément, elle s'ancre dans la réalité de la vie des gens, dans ses heures et ses malheurs, dans ses espérances et dans ses déceptions. Et donc, je pense qu'il aura là un message très fort. Très certainement, ce n'est pas lui qui va présider cette messe, puisque son état de santé ne lui permet plus. Néanmoins, donc ça sera probablement le cardinal Wavelin, même si ce n'est pas encore annoncé, mais néanmoins une parole très forte de sa part, puisque c'est lui qui va évidemment prononcer l'homélie et intervenir fortement.
Suite à sa visite à Marseille, quelle est la suite du programme pour le pape François ? Retour à Rome ou s'en suivra un voyage
Alors, il y a d'autres voyages qui sont prévus, pas encore annoncés à ma connaissance, mais d'autres sont en cours de préparation. Vous savez, quand on revient, c'est comme nous, hein, quand on revient de voyage, on revient avec des souvenirs, on revient avec des émotions, avec des figures de visage qu'on a pu rencontrer, des moments qui nous ont marqués, des moments heureux, des moments d'émotion. Moi, je trouve très beau que le pape revienne à Rome, au siège de Pierre, avec cette part d'émotion, de rencontre avec des vrais gens, si je peux me permettre. Indéniablement, cela nourrira sa prière, cela nourrira son ministère. Cela donnera du sens et du courage pour affronter les mois qui arrivent et qui vont être déterminants, en particulier avec ce synode sur la synodalité. Je pense que le pape François n'a pas fini de nous bousculer.
J'imagine qu'à Marseille aussi, cette visite va donner des fruits en suivant.
Oui. Mais il ne faut pas...
Trop en attendre ?
Non, ce n'est pas ça. Il faut en attendre beaucoup, au contraire. Mmh. Il faut au contraire en attendre beaucoup. Il faut profondément espérer, prier pour cela. Et j'invite nos auditeurs vraiment à porter ce voyage dans la prière. Le cardinal Aveline a lancé cette neuvaine en vue de préparer cette venue. Je trouve que c'est quelque chose qui a profondément du sens, de se rappeler justement que ce dialogue, cette démarche ne peut se faire que grâce justement à notre disposition spirituelle. Mais... on ne mesure pas les fruits de la providence, on ne mesure pas ce que le Seigneur accomplit dans les cœurs et dans les âmes. Je ne sais pas ce que cela donnera, mais je sais que nous ne pourrons pas rester insensibles.
Vous ne pourrez pas être à Marseille parce que vous êtes au milieu national du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance qui se termine justement le 23 septembre. Mais on sait que nombreux sont les chrétiens, les fidèles dans nos paroisses dans le diocèse de Toulouse, mais un peu plus largement dans la région. Y a du sens ou pas d'aller rencontrer le pape à la Marseille, d'aller voir le pape à Marseille, ou c'est juste pour les Marseillais?
Ah ben non, c'est une évidence que quand le successeur de Pierre vient proche de chez nous, on y va. Mm. Vous êtes cruel en rappelant que je ne pourrais pas y aller.
Ça vous fait mal. Ça vous fait mal.
Non, ça me fait pas mal parce que justement, je suis à ma place. Ma mission est d'être auprès du pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance et je suis très heureux justement d'être là où je dois être. Mm. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais j'imagine l'ambiance qu'il y aura dans ce stade. Ce n'est pas simplement le fait de faire des grandes holas ou de faire... voilà. Mais que ce soit un vrai moment de recueillement et un vrai moment de prière. En tout cas, moi qui serai loin, il est évident que, comme chaque jour, lorsque je célèbre la messe, ma prière... En union avec le pape François, justement, montera vers le Seigneur, ça sans aucun doute.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Mgr Xavier Darode.
Merci.
Merci d'avoir accepté de nous partager votre expérience, en tout cas, en tant qu'ancien conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, pour ce voyage du pape François qui a lieu dans quelques jours, les 22 et 23 septembre prochains. Je le rappelle, ce sera du côté de Marseille. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.